Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dernière ligne droite des grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à la mi-journée avec Cédric Emans, avec Sarah Pitkowski, avec Simon Dutin. On a déjà débattu du Tour de France, de Paul Sexas. Podium ou pas? Cédric y croit encore.
Podium.
24 secondes pour aller chercher Isaac Del Toro. On a parlé également de LeBron James, son choix d'aller aux Sixers.
Podium.
Bon choix ou pas? On a parlé de la Formule 1 alors qu'on a le Grand Prix de Hongrie ce week-end.
Alors là, j'y comprends. Pas de podium.
Mais voilà, vous pouvez réécouter tout ça évidemment en podcast sur toutes les plateformes. Je vous signale, les amis, au cas où vous avez raté cette information, que ce soir, on a une grande gueule du sport à Fort Boyard. Hein. Ah. Vous êtes au courant ou pas? C'est Alizée Cornet qui va être dans le coin. C'est ça. Donc on va voir, on va la pousser. Allez, Alizée et tout. Bon, c'est pas en direct, hein,
c'est déjà enregistré.
C'est ça. Donc on va voir si, évidemment, on fera l'after avec elle. Hein, si ça s'est bien passé ou pas, on sera là pour.
On peut avoir de belles images.
On aura de belles images. Je pense qu'on aura quelques séquences qui vont alimenter notre année avec Alizée qui nous écoute.
C'est courageux.
Ah, mais j'avoue. Tu le ferais, toi, Fort Boyard?
Oui, et s'ils m'entendent, je viens.
Qu'est-ce que tu aimerais pas, Fort Boyard?
Rien, je veux tout tester.
C'est vrai?
Moi, ça me branche bien.
Ouais. Les mégales et tout ça, les serpents?
C'est plus ces insectes.
Les insectes.
Mais justement, moi, je veux voir comment
les cafards et tout, non?
Ouais, les trucs comme. Mais les trucs sous l'eau, ou tu sais, ou dans le vide, ça me dirait bien.
Les insectes, ils sont propres,
Ils sont propres.
Ils vont nettoyer avant, les insectes.
Ouais, c'est propre.
Simon, non, Fort Boyard, tu vas être énorme, tu vas nous dire que tu l'as déjà fait 10 fois dans ta vie.
Moins Fort Boyard, ouais,
Non, tu ne te vois pas sur l'indice, avec le Tarfoura, c'est tout.
J'avoue que même pour une association destinée à des gens qui en ont besoin, les migales, les grenouilles, les trucs.
Ça, on va se proposer.
Si vous nous écoutez, il y a deux
candidats. On est partant.
On est, voilà, on veut tous y aller.
Moi, si vous y allez,
d'ailleurs.
On fait ça pour une bonne cause, hein.
Oui, bien sûr.
On fait ça pour l'association Christophe Cessieux, pour l'aider
à redevenir sportif.
T'embrasses, Christophe.
Bisous.
Tu dois être dans la montée de l'Alpe d'Huez, ils vont dire, oh, les salauds. Et oui, bien sûr, c'est comme ça. Allez, il va se manger cet après-midi dans l'intégral tour. Et sur le buzzer, dans un instant, on va retrouver Richard Viron. Qu'est-ce que vous croyez à l'état de la dernière chance pour les Français qui n'ont pas encore scoré de victoire d'état? En fin d'émission, vous participez au jeu. On a un magnifique cadeau aujourd'hui, hein. Un séjour dans l'un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France ou en Europe. Vous voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Moi, j'aurais toujours peur à Fort Boyard de ne pas trouver le mot à la fin, tu sais. Félindra, tête de tigre.
Ça n'arrive pas.
Alors que c'est pour une bonne cause.
Ça n'arrive jamais.
On ne sait pas, peut-être ce soir, on va voir. Allez, on est avec toi, Alizée. Allez, go, Alizée. Allez, tout de suite, le vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est à quel point Paul Sexas, on en a parlé depuis le début du tour, les amis, a une bulle autour de lui, hein, pour se protéger des nombreuses sollicitations des médias, notamment. C'est le secret défense aussi qui a plus ou moins été maintenu autour de la nomination de Zidane mardi. C'est vrai que ce sont les confidences qui se font désormais au compte-gouttes entre sportifs et journalistes. On voulait parler de ça, les amis, à travers votre expérience. Quand le sportif de haut niveau se confie à la presse, comment, pourquoi, à quel moment, avec qui? Évidemment, ces relations amènent aussi à la parole du sportif, à vous, auditeurs et auditrices, pour savoir ce qui se passe également sur les terrains et pour vous, les fans de sport. Cédric, alors quand je t'ai proposé ce vestiaire, tu m'as dit « Ah, bah, très bien, très bonne idée, on a plein de choses à raconter sur les confidences sportifs journalistes. » Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est un double jeu. Entre le off et ce qu'ils peuvent écrire, entre ce que tu peux dire ou t'es pas cité, ça sera des papiers d'ambiance.
On rappelle, le off, c'est ce qu'on va dire off the record, hein. C'est-à-dire que c'est pas enregistré, c'est juste dans une conversation informelle comme ça.
Exactement. Et après, c'est un jeu subtil parce que toi, sportif, t'as besoin d'avoir des informations que les médias ont. Eux, ils ont besoin des informations de ce qui se passe dans les vestiaires. Après, il y a une barrière à pas franchir. Il y a la vérité d'un vestiaire, l'histoire de vestiaire où il faut jamais la révéler. Donc là, c'est silence radio. Et après, il y a des petites indiscrétions qui peuvent transpirer dans la presse. Et généralement, on a toujours un, deux, voire trois journalistes avec qui on s'entend bien, avec qui on peut parler librement. Moi, ça m'est arrivé tout au long de ma carrière, que ce soit en équipe de France ou au Stade Toulousain. Ça permet aussi, mais c'est pas que envers les joueurs ou des managers, des sélectionneurs pour passer des messages, pour...
Ça peut
arriver quand tu as un manque de temps de jeu, par exemple.
C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas parler avec un journaliste pour faire comprendre que tu veux plus de temps de jeu, sans que ce soit une interview de Cédric Emmons.
Voilà, parce que ta situation, elle est inconfortable, que tu as envie de bouger, qu'il y a des clubs qui s'intéressent à toi, et quand le journaliste coupe le micro, il te dit, est-ce que tu es prêt à bouger? Ben, tu dis, ben oui.
Mais c'est important que tu le dises, parce que souvent, on reproche à la presse, et on reçoit des messages ici, hein. Ah, vous remuez ce qui ne va pas dans un vestiaire.
Mais il y a jamais de fumée sans feu, on le répète
aussi.
Mais
c'est clair. Et qu'un journaliste qui diffuse, il faut aussi connaître la déontologie médiatique et journalistique. C'est-à-dire que donner une information, c'est une chose, mais elle doit être corroborée et elle doit être, validée par d'autres sources. C'est pas parce qu'on te dit quelque chose que c'est forcément divulgué. Donc, il y a aussi ça qui est important. Mais je suis d'accord, c'est une partie d'échec. Et c'est pas la même quand t'es un...
C'est une partie d'échec avec la presse,
oui,
équipe et individuelle.
Exactement, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Il est beaucoup plus facile dans un sport collectif de donner des infos parce que qui l'a dit,
exactement.
On sait pas. Mais quand on parle de
Cédric H.
à parler, et c'est plus facile de se cacher parce que personne va venir t'accuser. Moi, on me l'a souvent reproché, t'es trop près de la presse.
Ah ouais.
Ben ouais. Ben moi, en plus, ma femme, c'est une ancienne journaliste sportive.
Donc, ah oui, d'accord.
Chaque fois qu'il y avait un truc dans le milieu olympique, pour citer, voilà.
C'était moi.
Quand j'ai été sélectionné, forcément, il a des bons articles. Voilà. Donc, ce rapport-là, je l'ai toujours plutôt bien géré, bien drivé avec.
Non, mais voilà. Il y a une différence, faut le dire, entre parler à la presse et être ce que certains investisseurs appellent la taupe.
La barrière, elle est subtile entre, je le redis, le vestiaire, il est sacré pour moi. Tout ce qui s'y passe doit jamais, jamais sortir. Après, il faut donner, excusez-moi du terme, donner à manger pour qu'ils puissent écrire les fameux papiers d'ambiance.
C'est en ça que c'est important. Et dans un sport individuel, alors ça a énormément évolué de mon temps. C'est-à-dire que le seul moment où on était exposé médiatiquement, c'était la conférence de presse d'après-match. Perdu ou gagné, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux où finalement les informations pouvaient être données au fil de l'eau.
Donc c'était le rendez-vous en tennis. Rendez-vous entre journalistes et joueurs sont finalement assez faibles, hein, parce que en fait c'est qu'en conférence de presse on se retrouve pas dans une zone mixte comme avec des joueurs de rugby.
Oui,
ça.
Et qu'en tournoi en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un club de foot ou de rugby, vous avez aussi des entraînements ouverts à la presse, donc ils viennent autour.
Et alors pourquoi tu disais que c'est une partie d'échec?
Mais parce qu'en fait, si tu veux essayer de cacher plein de choses, tes blessures ou t'es un peu réfractaire et que tu réponds par des oui ou par des non en conférence de presse, que tu donnes pas à manger, comme on dit vulgairement, eh bien, à un moment, l'effet boomerang, il peut te revenir dans la figure. C'est-à-dire que quand tu as vraiment une baisse ou quand tu as vraiment un moment de down, eh bien, tu peux pas bénéficier d'un tout petit peu de bienveillance. C'est-à-dire que t'as pas donné avant.
Parce qu'il y a pas
ça peut te coûter très cher.
Quand
en fait.
Tu as donné à manger, parce que rugby, l'entraînement ouvert.
Donner à manger, c'est donner des informations.
Donner des informations. Puis il y a les entraînements ouverts au rugby. Et puis il y a toute la semaine, les appels à 19h30, 20h, le café improvisé, mais qui est pas du tout improvisé, où tu vas pouvoir échanger. Et le jour où t'es pas bien, si t'as été plutôt correct envers la presse, la plume, elle est un peu moins dure.
Exactement.
Mais parce qu'on connaît un peu plus le contexte
et on connaît
le sportif, puisqu'il a su se livrer, il a su s'ouvrir. Donc, nous, il y avait quelques plumes un peu acerbes dans le rugby. Ouais. tu savais qu'il fallait mieux se tenir loin ou au contraire aller à la rencontre pour pouvoir.
Attends, juste je veux savoir quand t'allais prendre un café avec un journaliste à Toulouse, tu mettais un masque pour pas qu'on te reconnaisse.
Non, pas, non, pas, non, pas du tout. J'allais pas à la brasserie du stade, ça c'est sûr.
Bah, tu m'étonnes.
Mais non, il y a des endroits tranquilles. Mais
voilà, les parcours de golf sont très bien. Ah, bah, voilà. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Le vestiaire, c'est ça aussi, c'est qu'on vous amène dans l'arrière-cuisine un petit peu pour savoir comment ça se passe.
Il faut pas croire
dans le sport de haut niveau à tous les niveaux.
Quand je dis il y a pas de fumée sans feu, c'est que souvent les papiers. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ils remuent, ils cherchent, ils essayent de comprendre, mais c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va donner une info derrière. Hein.
Des départ, confidences ouais. sportifs, journalistes. Simon, tu les écoutes depuis tout à l'heure, tu représentes la corporation dans cette séquence. Ça te parle, évidemment.
Moi, j'ai eu ma première carte de presse en 2010 et j'ai déjà eu l'occasion de constater que notre métier a changé et que la relation avec les sportifs a changé. Là où, pendant très longtemps, il y avait moyen de développer une confiance mutuelle. Il y a désormais une méfiance, voilà, généralisée de la part des champions. Pourquoi ? Parce que désormais, ce qu'on appelle l'entourage incite évidemment à la méfiance, que les enjeux économiques, financiers pour les champions qui développent sur leur image des revenus complémentaires sont de plus en plus importants. Quand je parle de confiance, on a en mémoire certaines photos, Thierry Roland en maillot de bain au bord de la pistoche dans le même hôtel que les Français.
Parce que là, c'était vraiment une pistoche.
En pleine Coupe du Monde. Je pense que, en effet, le métier a changé, mais à l'image d'une société qui a évolué, parce que un de nos illustres confrères qui parle de foot sur Canal faisait remarquer que désormais, en fait, même lorsque nous on fait notre métier, les fans, je parle même pas des champions, les fans sont plus capables d'entendre une critique envers leur club. À partir du moment où, même si
stigmatisons pas tout le monde,
en tout cas,
Simon.
C'est de plus en plus difficile de d'émettre des critiques sur les performances. Et moi, je suis bien placé pour le savoir. J'ai officié parfois à l'after.
Mais ça, c'est sur les réseaux sociaux.
Si tu dis, des réseaux sociaux désormais, qui, Sarah en parlait, sont un espace où la parole des champions peut s'exprimer. En fait, désormais, avec les réseaux sociaux, et c'est ça qui a bouleversé notre façon de travailler, c'est que avec les réseaux sociaux, finalement, les champions, ils n'ont plus besoin de la presse pour s'exprimer. Avant, ils pouvaient faire appel à toi parce que tu avais un message à faire passer, tu avais besoin de la presse. Désormais, en fait, les interviews, elles se font sur les réseaux sociaux. La seule différence.
Sur leurs réseaux sociaux.
Sur leurs réseaux sociaux, tu fais bien de le préciser.
Leur propre chaîne.
Et quelle est la différence fondamentale? C'est que tu continues à faire des interviews quand t'es un champion, sauf que c'est toi qui choisis les questions.
Oui. En fait,
c'est toi qui choisis les questions et c'est toi qui choisis la partie des réponses, je termine, que tu diffuses. Et à ce titre-là, ça change fondamentalement la relation. Et moi, je discutais avec un confrère de presse écrite il y a déjà quelques années, qui m'expliquait, c'était les premières années du PSG version qatarien, qui m'expliquait que lui, en fait, ça l'intéresse même plus d'essayer de caler un joueur du PSG, parce qu'il va avoir des réponses formatées, qu'il va y avoir l'agent, qu'il va y avoir un membre de la communication du club, et que finalement, il préférait aller boire un café pendant deux heures avec un joueur d'une équipe qui joue le maintien ou tu vois, de bas de classement, parce que là, tu peux encore avoir
spontanéité.
Ce qui a vraiment changé, c'est la relation sportif-journaliste. Avant, tu tapais dans la main, ce qui était dit, c'était off. Il n'y avait rien, ça sortait jamais. Aujourd'hui, tu ne peux plus approcher un joueur. Tu es obligé de passer par le club, son agent. Les questions sont envoyées avant. Ils veulent contrôler même jusqu'à la diffusion. Dis-moi, il n'y a plus cette relation-là. Et comme c'est devenu tellement important qu'ils veulent tout maîtriser. Donc c'est eux quand ils veulent, au moment où ils veulent et les sujets qu'ils veulent. Moi, ça m'est arrivé de parler de sujets pas touchy mais importants dans ma carrière. Le journaliste, au moment où on parle, on est hors scope d'une interview, hors scope d'un rendez-vous média, rien n'est sorti. Par contre, il connaissait parfaitement ma situation, et au moment où je lui disais « c'est bon, je peux en parler », ben on en parlait.
En fait, c'est vrai que alors c'est intéressant ce que tu mets, Simon, parce que là on parle des confidences entre sportifs de haut niveau et journalistes, parce qu'au final c'est ce qui arrive à vous, hein, auditeurs, auditrices ou lecteurs et lectrices. C'est-à-dire que nous, journalistes, on est vos relais pour poser des questions aux sportifs,
pour vous apprendre
peut-être grâce à notre proximité qui sont vraiment ces athlètes, ces personnes, pour qu'on puisse s'attacher également à eux et qu'on soit dans un échange un peu spontané pour qu'il y ait un peu d'aspérité aussi autour autour de ces athlètes. Et c'est vrai que quand ils passent par leurs réseaux sociaux, par leur plateforme, c'est quelque chose de, c'est un objet de communication, en fait, marketing, qui en sort, oui, et qui manque un petit peu, peut-être parfois de profondeur. Ce qui peut y avoir quand il y a des confidences,
la discrétion. Oui. Si tout le monde autour de la table a la même info au même moment, il n'y a plus aucun intérêt. Mmh. Ce que tu as envie, c'est de quand tu es journaliste, d'avoir une connivence avec un sportif, mmh, ou quelqu'un qui va te donner de la matière pour pouvoir faire quelque chose.
Est-ce que vous connaissez si bien aujourd'hui vos sportifs préférés? C'est la question qu'on peut se poser, en fait. C'est de plus en plus difficile de vraiment connaître qui sont aujourd'hui nos personnalités qu'on adore analyser. Sarah.
Et pour mieux connaître un sportif, il y a effectivement s'adresser au sportif, mais il y a son entourage aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, l'entourage, eh bien, verrouille aussi la communication, mais de pouvoir parler aux parents, de pouvoir parler aux préparateurs physiques, de pouvoir parler aussi à l'entraîneur, ça permet de construire une image. Et c'est vrai que ça aussi, c'est à prendre en considération. Et puis, c'est un relais, c'est-à-dire que plutôt que le sportif parle en direct parce qu'il n'a pas envie, ou n'a pas le temps, ou émotionnellement, ce n'est pas le bon moment, de pouvoir mettre en première ligne une autre personne de l'entourage permet de continuer à entretenir cette relation. Et quand même, dans certains cas, et de plus en plus dans les sports individuels, et là je parle du tennis, qui a des staffs qui signent des contrats avec un joueur où il est notifié qu'ils n'ont pas le droit de répondre et de s'adresser à la presse. Et à force de tout verrouiller comme ça, eh bien, on en vient à un moment où, quand tu fais plein de premiers tours d'affilée et que tu dois quand même te présenter en conférence de presse, eh bien, cette bienveillance, elle ne peut plus être là parce que tu n'as pas donné ou tu n'as pas donné accès un peu à ton univers. Parce que ton boulot n'est pas juste le rectangle vert ou le rectangle de terre battue, par exemple.
On parle de l'importance des confidences sportives, journalistes, de la relation un peu complexe, comment on l'utilise dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC, Cédric.
La génération à laquelle j'appartiens, tu avais souvent l'interview du sportif, mais derrière, tu avais son épouse, la maman, le papa, son histoire, le copain qui témoigne de son passé de sportif. Aujourd'hui, tout le monde refuse tout. Et donc, les indiscrétions, et ce qui rend le sportif humain, et ce que le lecteur, l'auditeur, le passionné de sport, le fan cherche, c'est ça. Mais comme on est en train de tout aseptiser, eh bien, on se donne rendez-vous qu'à des points presse.
Mais je pense que de toute façon, il faut regarder ce qui se fait aux États-Unis, en fait, qui de toute façon, c'est des États-Unis que toutes les tendances dans notre métier partent. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils ont le même problème que nous. Ces champions, la défiance des champions et de leur entourage face à notre corporation, qui nous voit comme, qui voit plus de risques que de bénéfices à s'exprimer en toute spontanéité. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les ligues américaines? T'as les obligations de passage face à la presse. Voilà, t'es obligé d'y aller. Si tu viens pas, tu prends une amende. Donc les mecs qui viennent pas, ça, c'est décompté de leur portefeuille. Bon, ils gagnent tellement que ça les dérange. Bah,
en fait, on va carrément dans le vestiaire, dans le locker room, et on va devant le siège du sportif pour lui poser des questions.
Oui, enfin, t'as surtout des passages en conférence de presse qui sont des robinets d'eau tiède. Voilà, tu as des questions. Les mecs répondent en fonction de leur envie, de leur humeur, du résultat du match qui vient de se terminer. Et une fois de temps en temps, il y en a un qui est d'humeur à lâcher un ou deux scuds et qui sont repris. Mais sinon, à part ça, ils ont compris que ça ne sert à rien. Et regarde, en NBA, là, hier, on a appris que LeBron avait signé à Philadelphie. C'est Sam Charania qui est un des insiders, qui a remplacé Wojnarowski. Je veux dire, il t'a deux mecs qui ont des infos. Et sinon, point barre. C'est terminé. Tu ne peux plus miser sur une relation de confidentialité, de proximité avec un sportif pour obtenir des infos. Donc le métier, il a changé, et c'est pour ça que notre profession, elle a dû dézoomer un petit peu, prendre un petit peu de recul et faire ce que nous faisons dans les grandes gueules du sport, à savoir faire un petit peu de d'éditorialisation, donner un petit peu plus notre avis, parce que désormais on n'est plus là pour donner les résultats ou les comptes rendus, parce que les gens les ont via internet. On n'est plus là pour relayer les déclarations, puisque ce sont les champions qui décident ce qu'ils nous donnent via leurs réseaux sociaux. On est là pour éditorialiser, donner du sens un petit peu aux performances auxquelles on assiste comme tout le monde.
Cédric, Tu veux rajouter quelque chose?
Non, je veux dire que faut pas regarder aussi que du côté du sportif qui a plus envie de se confier. Il y a aussi.
Après, il y a eu des mauvaises expériences aussi. Hein, attention, hein, j'ai des messages là-dessus. Des voilà, les journalistes ont pas toujours été parfaits. Voilà, il y a des choses qui ont été données pour le buzz.
Parce que là, on bien sûr, dire que les sportifs se livrent plus.
Les journalistes sont gentils, temps, tous. Hein.
Moi, j'en ai pas fait l'expérience, mais je connais quelques sportifs qui parlaient off et c'est retrouvé dans la presse, tu vois. Donc, quand tu es vraiment off et que tu tapes dans la main avec ton journaliste, avec qui t'échange, mais il faut que ça reste off. Voilà. Et c'est des deux côtés qu'il faut voir les choses.
Et puis, il y a beaucoup de messages aussi sur WhatsApp au 0612 424 424 sur le fait que maintenant il y a la recherche du moindre buzz, que tout passe effectivement pour peut-être trahir la confiance du sportif. Bon, je voudrais quand même dire, attention quand même, c'était mieux avant parce que avant la presse c'était très dur aussi.
Non,
c'est pas ce que je te dis à toi, mais je veux dire en général, la presse a aussi été très dure par le passé, parfois ultra violente même, hein, face avec nos grands champions dans l'histoire. En France, c'est arrivé.
Oui, mais regarde,
aussi,
comme Sarah disait tout à l'heure, si tu es capable d'avoir une conversation off et que tu casses cette barrière du journaliste sportif, je pense que la plume, elle est moins acerbe.
Et regardez, et si nous on a décidé en ce début de saison de faire aussi cette séquence qui s'appelle le vestiaire des grandes gueules du sport, où on est justement dans les confidences et pour essayer de raconter un petit peu ce qui se passe dans l'envers du décor, est-ce que vous ressentez quand vous êtes sportif de haut niveau, c'est aussi pour ça, parce que on estime finalement que on en manque un petit peu peut-être aujourd'hui de l'épaisseur dans le sport de haut niveau et qu'on a besoin de raconter un petit peu à travers vos expériences comment ça se passe, que vous êtes des humains aussi d'une certaine façon et que ça permet de mettre on va dire en valeur différemment nos sportifs actuels pour comprendre ce qui se passe dans leur tête.
Je vais te donner un exemple. Quand j'étais en manque de temps de jeu au Stade Toulousain, je me suis servi. J'ai posé des questions à quelques relais que j'avais pour savoir d'un tel club, il y a tel ailier qui va bouger, tu penses que tu peux aller où, il y a de la place où. Lui, il a toutes ces infos que moi, j'avais pas d'agent. Mais ça, il revenait vers moi en me disant, ben, voilà, là, c'est bouclé, là, tu peux pas bouger parce qu'il n'y a pas de fin de contrat, et ainsi de suite. Tu vois, c'est donnant, gagnant, gagnant, donnant.
Et posez-vous la question, vous qui écoutez le vestiaire maintenant depuis le début de la saison, est-ce qu'on s'attache pas plus à des personnages quand on en sait un peu plus sur Cédric Aimant, sur Sarah Pitkowski, sur Marc Maggio, sur Fred Weiss, sur les moments durs, les moments bons, on va dire toute la complexité qui est une carrière de sportif de haut niveau,
Jérôme Bineau. Quand tu t'attaches, tu finis tard.
Ah, mais voilà. Non, mais exactement. Mais c'est de savoir tout ça aussi, finalement, qui nous permet déjà de se voir un peu plus aussi dans les sportifs de haut niveau et comprendre à quel point ça peut être compliqué et le chemin que vous devez emprunter pour arriver jusqu'ici. On ferme la porte du vestiaire, évidemment. Vous retrouvez en podcast cette séquence et on aura toujours l'occasion d'en parler. C'est un sujet d'une grande complexité. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, les relations. Qu'on espère le plus proche possible avec Zinedine Zidane, notre nouveau sélectionneur, à partir de mardi. Allez, dans un instant, on va retourner sur la route du Tour. Richard Virenque va être avec nous. Tiens, on va parler des coureurs français. Jusqu'à maintenant, on est fanny, hein, pas de victoire d'étape. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la dernière chance va être la bonne? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Mais d'abord, le Tour de France, dernière cartouche tricolore. Aujourd'hui, faudra pas se couper.
RMC, les GG sur le buzzer.
Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur?
Nouvelle attaque de Tadej Pogacar, Richard Carapaz et Lenny Martinez, en bons grimpeurs qu'ils sont, essayent de s'accrocher, mais il y a 1 mètre, il y a 2 mètres, ça y est, il est parti. Tadej Pogacar qui va aller chercher une nouvelle victoire sur ce Tour de France.
Personne ne peut résister aux accélérations de Tadej Pogacar, personne ne peut résister, même avec 3 minutes 30 d'avance au pied de l'Alpe d'Huez.
Pogacar a mangé tout le monde, cric, crac, croc, croc.
Toute personne ayant jamais vécu a besoin d'un sauveur.
Lenny Martinez, français, deuxième. Malheureusement, il n'y aura pas de victoire. Il est déçu, il tape sur son bidon. Ça s'est joué à peu de choses.
Ah là 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 là, on est en train de tout perdre côté français. Le maillot à pois, la victoire d'étape et le podium du Tour de France.
L'humanité a besoin d'un sauveur.
Richard Virenque qui va là-bas vers l'arrivée à Luzardiden, qui inscrit donc son nom au palmarès. Des grands, grands, grands succès d'étape. Une échappée extraordinaire. Il s'est affirmé comme le patron de cette échappée aujourd'hui. Qu'il est beau le visage de Richard Virenque. La joie est forte. car il sait qu'il rentre maintenant dans le clan des grands coureurs français. Bravo.
Bah oui, elle a peut-être besoin d'un sauveur pour aller chercher cette victoire d'étape. Bonjour Richard Bianc.
Ouais, pour vous remonter un peu le moral quand même. Il faut de l'espoir dans la vie.
Et tu parles au kilomètre zéro, tu parles, tu crois de faire et tout, télégraphe Galivier, c'est pour toi. Allez.
Ouais, ouais, non, mais c'est clair qu'une journée comme aujourd'hui, c'est.
C'est pour toi.
Ah, mais c'est magnifique. Quand on est grimpeur, franchement, quand on est grimpeur, même si on est fatigué, ça va être top.
C'est magnifique.
Ouais, voilà, c'est fort, parce qu'on monte quand même trois hors catégorie. Aujourd'hui, c'est pas un, c'est trois, avec aussi un première catégorie. Mmh. On fait 5500 mètres de dénivelé. C'est ouf. Mmh. Donc, il faudra avoir quand même la bonne jambe. Celui qui est pas trop bien aujourd'hui, il va se faire un peu du souci.
Oui, ça va être long.
Un exomie, là.
Cédric, bon.
Richard, déjà, bonjour. Moi, alors, fan de toi. Alors là, tu m'as fait rêver quand, sur le Tour de France. J'ai aimé le vélo grâce à toi. Donc, déjà, merci.
Ouais, je suis sûr que Richard regardait aussi les cadrages débordements de Toulouse, Cédric Hémence.
Richard, c'est une étape pour toi, là, non? Au kilomètre zéro, tu pars en danseuse dans toutes les montées, tu relances. Elle était pour toi. Ouais, tu l'aurais gagné, celle-là.
Ouais. Écoutez, là, ouais, j'aurais été bien sur le plat, dans le peloton, mais après, j'aurais pris la tangente, comme on dit, parce que l'école, maintenant, je grimpe plus ces cols-là. Du tout. Je suis passé
à l'époque. À l'époque.
Ah oui, à l'époque. Oui,
bon, sûr, on a toujours pas de victoire d'étape française, les amis. Lenny Martinez est passé proche hier. Il nous reste deux cartouches. On sait que ce sera compliqué demain à Paris avec le passage sur Montmartre. Donc, c'est all-in aujourd'hui sur la 20e étape. Tu le disais, Richard, Bourdoisan, Alpe d'Huez. On va passer par que des cols mythiques. Hein. Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Sarène, arrivé par l'Alpe, par le versant de l'autre côté. Dans l'histoire, on a eu seulement deux fois hein, où on a fini, Fanny. C'était en 26 et en 99. Je vous pose la question, les GG. Est-ce que vous croyez à l'étape de la dernière chance pour les Français? Est-ce que vous y croyez? Sarah Pitkowski.
Malheureusement, non.
Aïe, aïe, aïe. Simon?
Non, j'y crois pas. Non.
Oui, Cédric Paul. Oui, t'y crois pas, Texas?
Non, mais parce que t'y crois, mais.
Alors, parce qu'il va faire la différence. Ouais.
Maria Azé vous fait vivre ce tour en plein cœur de la course sur la moto RMC. Salut Maria! Maria?
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Maria.
Oui, bonjour Maria qui est là parce que l'étape vient de débuter, hein, le départ réel.
C'est la moto, mon cher Georges, il y a un petit peu de décalage.
Hein. Ouais, j'avais oublié. J'avais oublié, effectivement. Bon, Maria, t'as parlé avec les coureurs français ce matin. Qu'est-ce que ça dit? Ils partent à l'abordage, là, pour cette dernière étape?
Je vais pas vous mentir, ça dit plutôt vivement la fin, hein. Côté paddock, côté coureurs, les coureurs sont complètement cramés, ils ont encore une étape, mais avec 5600 mètres de dénivelé positif au programme, on sent vraiment la fatigue dans toutes les équipes, hein, et notamment dans les équipes françaises, et évidemment quand on voit la prestation de Tadej Pogacar hier, ça démotive un peu tout le monde pour aujourd'hui, parce que personne n'a envie, c'est vrai, de faire partie de la génération de française qui aura passé un Tour de France sans victoire d'étape. Tu le disais Georges, on le rappelle, c'est arrivé que deux fois dans l'histoire, en 26 et en 99, mais en même temps quand on voit le niveau de ce Tour de France, tout le monde est lucide. Alors il y a quelques petits regrets côté français tout de même, peut-être sur la 13e étape du Tour de France et la victoire de Mauro Schmidt, alors que Kevin Vauclin et Jordan Gegat étaient dans le coup. Des regrets aussi hier pour Lenny Martinez qui avait les jambes mais n'a peut-être pas roulé assez intelligemment, Richard en a parlé hier. Après côté organisateur, on considère quand même que 3 français dans le top 10, ça vaut autant qu'une victoire d'étape. Et puis on sait jamais, un grand Romain Grégoire demain qui a coché l'étape des Champs-Elysées. Ça peut toujours passer, on verra demain, mais Tadej Pogacar évidemment veut s'imposer en jaune sur les Champs-Elysées.
Merci Maria, on te retrouve évidemment toute la journée sur la moto RMC. Ah, il me donne envie d'y croire presque, Maria. Tiens, Richard, on va te poser la question d'abord. Est-ce que toi tu crois à l'étape de la dernière chance aujourd'hui pour les Français? Est-ce que tu penses qu'il y a la place pour un coureur pour aller chercher cette étape qui nous manque?
Oui, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. On a vu hier. Hier, on est passé. Hier, il y en a qui ont
pas dû. Il a gagné, dormir. Martinez.
Non, il n'a pas voulu gagner. Non, mais
quelque part. Regardez hier, ça aurait dû le faire. C'est juste qu'une des circonstances, on va dire tactiques, l'a pas fait. Parce que quand on voit le scénario, c'était bien parti. Donc aujourd'hui, ça va être bien parti aussi pour une échappée. Et il faut que les Français. En fait, il faut se lancer dans le combat. Voilà. Si on se lance pas dans le combat, on attend. Ben, y a rien qui va se passer. Donc il est clair qu'il faut partir à l'avant. Il faut aller faire les points. Et à un moment donné, les conditions climatiques ou la difficulté de la course, va récompenser. C'est ceux qui sont à l'avant et ceux qui n'ont pas peur. Parce que si on est défaitiste, on se dit « Ah non, mais on ne va pas réussir ». on reste à la maison. Donc moi une étape comme aujourd'hui, c'est vraiment une étape pour faire des choses. Et on a des coureurs aujourd'hui, on en a 3 dans le classement général. Déjà, il faut se satisfaire parce que des fois, on était bien loin de ça. Donc pour l'instant, le tour se passe plutôt mal. Plutôt bien, on va dire, pour les Français. On en parle beaucoup de Paul Sexas. Ben, il est là, hein. Donc quoi qu'on peut dire, aujourd'hui il est quand même en train de flirter avec le podium, et aujourd'hui il peut mettre la balle au fond. Donc il faut être optimiste et il faut partir à l'affront, et c'est sûr que ça va être dur pour tout le monde. Ça va être dans la tête, et dans la tête, et ben il faut avoir un moral costaud.
Il faut y croire,
et puis
il faut
y croire. Puis aujourd'hui, avec la difficulté, il y a les conditions météo, les descentes vont pas être simples. S'il se met à pleuvoir, il va y avoir, c'est tellement long, l'alimentation, parce que quand tu es dans ton vélo, que tu es acteur, tu peux oublier de penser à manger. Donc
t'as une fringale sur un vélo un jour.
Ah ouais, et puis ça, quand tu l'as, hein, c'est fini. Il y a plus rien dans les jambes. Après, moi, si je reviens sur l'étape aussi d'hier, Martinez, du moins, on a l'impression d'avoir des pistards dans la montée de l'Alpe d'Huez.
Ils sont attendus.
Tellement que quand t'as 3:30 en bas, ou 3:34 même, je crois, en bas, t'as la possibilité de gagner une étape. J'ai l'impression que Martinez n'a pas tout fait pour aller la chercher.
Ouais, moi, j'ai l'impression quand même que Pogacar, il aurait peut-être gagné quoi qu'il arrive quand même. Hein. Sarah, toi, t'y crois pas trop, t'es un peu défaitiste. Hein.
Bah, c'est pas être défaitiste, ça peut être aussi juste réaliste. Alors, je t'entends, Richard, quand tu dis qu'effectivement il faut y croire, que tout peut arriver. Mais enfin, quand toi tu de tes expériences, quand tu te lançais, vous aviez pas les oreillettes en fait.
J'ai connu les oreillettes.
Il a gagné avec des mecs.
Il a pas 80 ans, Richard. Hein,
oui, mais la manière dont tu te lances est peut-être à corps perdu dans une étape, ou au début d'une étape, tu le fais différemment quand t'as les consignes dans l'oreillette que quand finalement vous êtes tous sur la ligne de départ. Et puis il faut jouer un peu au bleu. Et il peut se passer quelque chose. Là, j'ai l'impression que tout est tellement.
Tout peut se jouer aujourd'hui. Regarde, quand tu regardes le classement aujourd'hui, il y en a tellement qui sont intéressés à passer de 4e à 3e, de 3e à 2e, de 2e à
3e. Non, Richard, sérieux, Evenepoel, il n'est pas prenable, c'est fini là.
Bah, tu sais pas,
avec une étape comme aujourd'hui, c'est pas comme s'ils allaient au cinéma aujourd'hui.
Ouais. Non, on est
aujourd'hui,
d'accord.
C'est un vrai truc de fumier. Donc aujourd'hui, il ne faudra pas avoir un coup de fringale, comme on dit, il faut être concentré. On peut aussi crever au mauvais moment. Ah ben même, terme, j'ai crevé. Donc on peut aussi prendre un coup de fringale, on peut aussi chuter. Ouais. Il y a tellement de scénarios, de choses qui peuvent se passer. Donc il faut être très concentré, il faut être très motivé, et il faut être aussi un peu chevaleresque. Parce
exactement.
Que, et qu'est-ce
si
qui t'en penses
pas, tu n'y arriveras jamais.
Mais c'est Richard qui parle.
Mais Richard, à la place de Paul, s'il ne se lance pas dans la bagarre au bout d'un moment, on ne saura jamais.
Simon.
Bah, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous regardez en haut du classement général pour trouver un vainqueur d'étape français. Moi, j'y crois pas pour Sexas, on l'a dit tout à l'heure, parce que je pense qu'il va être trop surveillé, et que Pogacar, en équipier modèle, en Gregario de Del Toro, ça va être trop compliqué. En revanche, le peloton laisser 20 minutes d'avance, tu vois, à un groupe de mecs qui n'ont aucune prétention au général, et à ce titre-là, pourquoi pas, je sais pas.
Valentin Paré-Pinte.
Mais dans une échappée qui pourrait s'expliquer entre les gars qui la composent, sans le maillot jaune qui contrôle la course. Moi, c'est à ce titre-là que j'imagine bien un Français, pourquoi pas gagner cet après-midi. Mais je pense pas que ce sera
On est d'accord, c'est possible. On va pas se dire c'est impossible. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité, et elle est faible. Oui, mais voilà, il faut aussi des coureurs qui ont des ambitions et qui ont envie de bousculer un peu les choses. Et je pense que Paul Sexas aujourd'hui, il en est totalement conscient. S'il va pouvoir le faire, il va tenter quelque chose. Il va pas tenter dans le galibier, c'est clair. Mais dans la dernière ascension, ils vont tellement être, tous bien râpés. C'est là qu'il faudra tenter. S'il peut pas, il peut pas. Et avant, il y aura une autre course. Avant, il y aura eu des échappées.
Je suis ravi d'être d'accord avec Richard. Et tu penses que Pogacar, il va faire l'équipier modèle aujourd'hui?
Oui, il va essayer d'amener son pote pilote en troisième position. Donc, ouais. Il va faire une course, on va dire, d'attente. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand c'est une course d'attente? Eh ben, il y a des fuyards qui vont prendre de l'avance. Ils vont prendre 5, 6, 7, 8, 10 minutes. Est-ce que ces fuyards-là, eh ben, auront à un moment donné de se dire, tiens, il faut vraiment prendre beaucoup d'avance parce que quand le lion va sortir derrière, il va falloir avoir de l'avance. Un peu comme hier. Hier, c'était parfait pour ceux qui étaient devant. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, ils se sont regardés dans le miroir. Oh non, mais moi, je veux faire premier. Non, moi, je veux faire deux. Et en oui, sachant
Lenny
que derrière,
s'est trompé hier.
Oui, il aurait pu gagner 10 fois. Ouais, 10 fois, Lenny, il aurait pu gagner. Et on l'a vu à l'arrivée. Et je pense qu'il doit pas être bien parce que le scénario, il était parfait pour lui. Simplement, à un moment donné, il a voulu trop jouer sur. Eh ben, vas-y, fais l'effort pour moi. Ouais. Et comme ça. Et même à un moment donné, Richard Carapaz, il a compris quand il lui a fait la cassure au kilomètre. Parce que Carapaz, c'est lui qui se relève, il laisse partir Pogacar. Mmh. C'est pas Pogacar qui met un grand missile. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, on est au dernier kilomètre, c'est moins dur. Mmh. Mais à un moment donné, Carapaz se relève et regarde Lenny et lui dit, bah, t'y vas. Et Lenny, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il reste dans la roue, il dit, non, mais moi, je reste là.
C'est le moment où il a failli être renversé par une voiture, c'est ça, voilà. C'est dans le dernier kilomètre.
Non, il n'a pas su renverser par une voiture là. Mais bon, c'est pour dire qu'il aurait suivi Pogacar calé dans la roue. Il y avait de quoi faire un sprint et il y avait de quoi de se le claquer en plus. Imaginez-vous,
imagine, tu claques Pogacar au sprint.
Ben oui. Mais ça se comprendrait pourquoi. Parce que Pogacar, il a fait 35 minutes au taquet
à fond.
Que Lenny Martinez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la patinette, un coup on fait un sprint, un coup on se relâche, mais même il fallait le monter. Tiens. Donc à un moment donné, c'était faisable.
Oui. Richard, justement, je voulais te poser une dernière question. Étape Rennes aujourd'hui, Glandon, Télégraphe, Galibier, Sarenne, Alpes d'Huez. Si Richard Viroc avait été au départ de cette étape pour aller chercher une victoire d'étape française qui manque, t'aurais attaqué où?
Ah ben la Croix de Fer là. Vous rappelez pas en 1997, d'accord? Je me fais c'était un affront pour moi, c'est-à-dire Marco Pantani fait l'Alpe d'Huez et je saute de sa roue à 4-5 km du sommet dans l'Alpe. Donc je fais 3e de l'Alpe et c'était pour moi un affront de m'être écarté, il y avait Daniel Ulrich et moi. Donc je fais 3e. Le soir, je convoque tout le monde et je dis demain c'est une étape de montagne. Et c'était pareil, c'est-à-dire il y avait 4 cols, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le premier col, on a monté à fond et je suis parti dans le premier col. Bon, j'ai gagné c'était à Courchevel. Ouais. Donc c'était pour dire, j'étais deuxième du tour ou dans les premiers du tour.
Et t'as envoyé,
mais je voulais faire basculer et je voulais me faire sauter la caisse, mais les faire sauter à eux aussi.
C'était Richard Pantani.
Et Pantani, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a pris 6 minutes 30. Pourquoi? Parce que les premiers cols, il les met jamais trop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je l'ai mis au taquet dans le premier. Il est parti à 5 minutes et merci, au revoir.
Bon, donc, si tu nous écoutes, voilà ta stratégie.
Non, mais
là.
C'est ça. Non, mais mettez RMC, s'il vous plaît, dans les oreillettes des coureurs, exact. Avant d'arriver dans la Croix de Fer. Comme ça, les mecs, ils vont être motivés par Richard pour aller attaquer tout de suite. Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la grande gueule du sport. Ah, tu nous as enflammé cette étape-là. C'est bon, là. Ah, là, j'ai envie d'aller chercher les poids direct. J'ai envie que tu prennes ton vélo et t'ailles à la Croix de Fer, surtout, là. Ça y est, on est au pied de la Croix de Fer, à 160 km de l'arrivée. Incroyable. Merci Richard. On se retrouve évidemment à midi dans le flash et tout au long de la journée sur RMC dans l'After Tour aussi ce soir. Voilà pour le Tour de France qui arrive à 14h évidemment avec l'intégral Tour, avec Christophe Cessieux et toutes ses équipes. Mais dans un instant, restez avec nous. On va jouer. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Et on accueille notre meilleur joueur préféré, c'est Dark Pinet, François Pinet qui nous rejoint. Salut François.
Salut Georges, salut à tous. Bah oui, moi j'adore jouer, surtout gagner.
Ouais, Dark Pinet parce que quand il joue, il devient mauvais.
Il transforme.
Il devient une mauvaise personne.
Je suis le genre idéal au départ, mais en fait, Simon, il sait, il connaît ce côté dark chez moi.
Le jus de bouteille est autorisé.
Ouais. Le jus de bouteille est autorisé seulement quand Christophe Cessieux est là.
Allez, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur, je répartis les équipes. Dutin et Mans, Pitkowski Pinet.
Ah, encore les pipi-flingueurs.
Les pipi-flingueurs. C'est moyen, c'est ça. Je rappelle qu'il y a une question impossible activable par un seul joueur par émission. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise, c'est 1 point. En moins, j'accueille les auditeurs. Johan qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine et Thibaut qui nous appelle du Nord. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour
messieurs. Johan, toi qui nous appelais en premier, je te laisse choisir ton équipe. Dutin et Mans ou Pitkowski Pinet?
Je vais jouer avec Cédric
Emence. Tu vas jouer avec Cédric Emence. Simon, on n'en a rien à faire de toi.
Et Simon,
pas de problème, Johan. Ouais, ça m'a permis d'envoyer une balle.
Ça peut être
clair
que ça se joue avec
Thibaut, Simon. Avec Bikowski Pinet. Je rappelle que vous pouvez faire remporter aujourd'hui à nos auditeurs un séjour dans l'un des 400 campings Homer. Ce sont quand même des campings 4 à 5 étoiles, hein, situés partout en France et en Europe. Allez, c'est parti, on se concentre, les amis. Question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Vous donnez une réponse, le plus proche l'emporte. Sauf surprise, Zidane va être désigné mardi sélectionneur de l'équipe de France. Il compte combien de sélections avec les Bleus comme joueur ?
68.
68 pour Cédric. Allez, il faut donner la réponse.
85.
85 pour Simon.
92.
Ouais, j'allais dire 92, alors je dis 90.
90, donc tu as choisi plutôt à la baisse plutôt qu'à la hausse. Ouais. Et ben c'était 108 sélections, donc c'est François Pinet
qui
marque le point. Allez. Un point pour l'équipe Pitkowski Pinet. Question à plusieurs réponses, les amis. Quel coureur français gagnait à l'Alpe d'Huez il y a 40 ans sur le Tour 1986 ?
Fignon.
Non, plusieurs réponses possibles.
À l'Alpe d'Huez.
Alors, l'Alpe d'Huez.
Hino.
Bernard Hino, bien sûr.
Bien joué.
Ah oui.
Ah oui, c'est pas Fignon, c'est possible que ce soit Bernard Hino.
On en connaît deux dans ces années-là. Voilà.
Ouais. 2-0 pour l'équipe Pitco d'Arc Pinet. Johan et Thibault, question auditeur pour vous. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. C'est OK pour vous ?
Oui.
Qui a été nommé sélectionneur de l'Allemagne cette semaine ?
Jürgen Klopp.
Thibaut. 3-0 pour l'équipe qui.
Eh oui, il avait essaye de nous piquer notre auditeur. Ah, bonne technique.
Vous vous réveillez là ?
Bon, les gars. T'es là, Cédric ?
Ouais, on est bon.
Question à une seule réponse. C'est un qui suis-je ?
Voilà.
J'ai dominé mon époque sur le Tour de France. J'ai gagné autant de grandes boucles qu'Eddy Merckx. J'ai été sponsorisé par une banque. Mon surnom. Non, mon surnom était le roi.
Indurain.
Miguel Indurain.
C'est autorisé, Indurain. Je ne sais pas vraiment.
Miguel.
Ça passe.
On va appeler nos auditeurs en Navarre pour savoir si on dit Indurain ou Indurain. Allez, trois, vous revenez, les amis, c'est pas mort. Question à une seule réponse possible. Question de rapidité. Donnez-moi le nom du seul promu en top 14.
Van.
Mais attends.
Qui a dit Van, Simon ?
Simon.
Simon. Bah, Simon, c'est dans la même équipe.
Oui, mais c'est pour ça que je suis
là. Le Dark Simon a envoyé sa première insulte. Le Dark Pinet, pardon. Question auditeur, c'est pour vous. C'est pour ça qu'il
faut coller à 3-3.
C'est pour ça que le Dark Pinet vient. Il faut que tu colles.
C'est Thibaut.
Allez, Johan et Thibaut, c'est pour vous.
Allez, Johan.
Question de rapidité, vous donnez votre prénom après votre réponse pour valider. D'où est parti le Tour de France cette année ?
Barcelone, Johan.
Thibaut, c'est Thibaut, bien sûr. 4-2 pour l'équipe Pitkowski Pinet.
Il n'a pas un décalage, Johan ?
Il n'aime pas le camping, Johan.
Allez, question à élimination pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Donnez-moi, s'il vous plaît, tous les joueurs qui étaient sur le terrain avec Zinedine Zidane pour son dernier match avec les Bleus en finale de la Coupe du Monde 2006. Tous les joueurs qui étaient sur le terrain et qui ont joué. Donc ça compte pour les deux équipes. La finale de la Coupe du Monde, c'était France-Italie. On commence par Simon Dutin.
Fabien Barthez,
c'est bon. Sarah Pitkowski.
Thierry Henry,
c'est bon. Cédric Emence.
Bichente.
Et puis Chantal Lizarazu n'était pas là en 2006, c'est éliminé. Ouais. François Pinet.
Franck Ribéry,
c'est bon. Simon Dutin.
Aloudira,
c'est bon, rentrez en prolongation.
Je m'en vais.
Il n'y a pas de souci. Sarah.
Patrick Vieira,
c'est bon. François Pinet.
Claude Makélélé,
bien sûr. On cherche les joueurs qui ont joué avec Zidane sur le dernier match de sa carrière avec les Bleus. Simon.
Éric Abidal,
ça marche. Sarah.
Thuram.
Lilian Thuram, c'est bon.
William Gallas,
c'est bon. Ça va vite. Simon Dutin.
Willy Sagnol,
c'est bon. Putain, on parle de ceux qui ont joué avec Zidane. Sarah, 5, 4, 3, 2, 1. Éliminé. François.
Sidney Govou
n'a pas joué. Ballon match pour Simon Dutin.
David Trezeguet,
il rate le tir en but.
Oui, bien sûr.
La légende
est de retour.
4 partout. Il reste 40 secondes. Je vais avoir le temps de faire tout simplement.
La question impossible qu'on pourrait prendre.
Tu me prends la question impossible.
La balle de match, on est à 4 partout.
Non, impossible. Allez, vas-y.
Oh, la balle du match.
Alors là,
bon, le panache,
le panache. Mais j'aime bien.
Ouais, moi j'aime bien le panache.
Ouais, ouais. T'aurais pu aller sur une question peut-être simple.
Non, non, vas-y. Une question
Il vient de se rendre compte que sa stratégie n'est pas la meilleure.
Mais si, c'est la meilleure. C'est maintenant que tu as posé le rugby.
C'est parce qu'il avait peur de nous.
Pour faire gagner peut-être Johan. Vincent Clerc détient le record d'essais marqués en top 14. Avec combien d'essais à deux près?
Et on n'aide pas en régie.
Ouais.
100... Je crois qu'il y a 101.
101?
Ouais.
101?
Ouais, je crois.
C'est la réponse exacte! Oui,
non, mais c'est ça! Mais c'est du vol! Ça fait deux fois!
Mais c'est une honte ce jeu.
Je me fais une honte. Comment c'est possible?
Bravo Yann.
Parce que je lis son bouquin.
Jouez sur RMC avec Homer. Des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Homer, 400 campings, 400 raisons de revenir.
C'est truqué.
On n'a jamais vu ça avec les questions truquées. À égalité, c'est fou.
Mais non, c'est le panache. C'est Richard Virin qui attaque. C'est Cédric Clémence qui connaît une seule réponse.
Même qu'on écoute une seule réponse,
c'était celle-là. Magnifique, merci.
Bravo Cédric qui repart comme un prince. Hein. Voilà, le prince de l'été, Cédric Clémence.
Oh, je ne reviens plus.
Salut, François. Reviens pour ce soir. Faites-moi des bibilles en partant. Grand seigneur, bravo. Allez, tout de suite, restez avec nous les amis. Les paris RMC arrivent, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.